Si vous êtes parent, vous avez sûrement vécu un tsunami d'émotions depuis la naissance de vos enfants. Évidemment, de grandes choses, de fabuleux sentiments, mais pas toujours juste du positif. Si je vous parle inquiétude, peur, exaspération, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Personnellement, une des choses qui m'a le plus, je dirais, habitée et qui continue de m'habiter aujourd'hui, c'est le fameux doute. Cette impression de jamais être certaine que je fais la bonne chose. Et prendre une décision, c'est une chose, mais c'est aussi comment l'assumer. On s'entend, là, les mères ont probablement douté depuis la nuit des temps, là, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec toutes les théories qui circulent, les mères qui sont très positionnées sur les réseaux sociaux dans des clans pour ou contre, j'ai l'impression qu'on a quand même une pression supplémentaire. Et bon, je connais pas de parents qui échappent au doute, mais je trouve qu'il y en a quand même qui le gèrent un peu mieux que d'autres. Alors, comment y arriver? J'en parle dans quelques instants avec notre chroniqueur et blogueuse Geneviève Peterson à cette nouvelle balado châtelaine. Alors, bienvenue à cette émission qui, je le rappelle, est totalement de type artisanal, où on vous parle de sujets qui vous branchent et sujets que vous aimez de votre magazine en version audio. Sans plus tarder, je me présente Christelle Crépeau, rédactrice en chef de Châtelaine, et mes collaboratrices du jour, Martina Jogo, rédactrice en chef numérique. Bonjour Martina.
Bonjour Christelle.
Tu nous parles de nouvelles virales encore cette semaine, mais là, c'est assez titillant, je dois dire.
Oui, c'est ça cette semaine. Alors, je vous raconte les bienfaits inattendus que les émoticônes peuvent avoir sur votre vie sexuelle.
Oh, yeah! Maintenant, Sophie Saint-Laurent, directrice mode beauté, tu nous présentes une chronique à la mode de chez nous.
Oui, une chronique dans laquelle je veux vous faire découvrir des griffes de mode enfantine conçues au Québec.
Oh, chouette! Et une première collaboration dans notre balado-diffusion avec Madame Nicole Labbé, directrice cuisine déco. Là, tu nous amènes quand même, c'est intéressant, toi, tu nous promets de l'évasion gourmande.
Oui, je vous amène dans une petite balade gourmande dans Lanaudière pour profiter des produits des artisans du coin.
Excellent! Avant de passer ces chroniques, je vous rappelle, on a toujours notre discussion sur un sujet société. Vous l'avez deviné, on parle de doute cette fois-ci. Avant de parler avec Geneviève qui est avec nous aujourd'hui, Geneviève Peterson, je vous fais entendre un petit vox pop qu'on a fait avec des gens autour de nous et on leur a demandé en tant que parents quel était leur plus grand doute et leur plus grande peur.
Mais je doute tout le temps encore aujourd'hui. Je doute de tout en fait.
Quand mon fils va jouer au hockey avec son père dehors, j'ai toujours peur qu'il se fasse frapper par une voiture. J'ai peur qu'il attrape des microbes quand il va à la garderie. Moi, je suis une personne très anxieuse et peureuse. Et mon plus grand doute, c'est je me demande si je vais être capable de ne pas transmettre mes peurs à mes fils. Puis je travaille vraiment fort et mon chum me surveille beaucoup.
Est-ce que je lui avais fait mal en le laissant si jeune seule? Je voulais la faire autonome, mais finalement, je me demande aujourd'hui, est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que je lui avais mis insécurité? Est-ce que je lui avais donné la peur? Et tout ça, tout en fait, je doute de tout, tout le temps, tout le temps.
Mais je me dis toujours, quand il va être adulte, puis il va se retrouver sur le divan du psy. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Parce qu'un jour ou l'autre, on en veut toujours à ses parents. Je pense que c'est normal, tout le monde passe par là. Puis je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il va dire, lui? Qu'est-ce qu'il aura à me reprocher? Est-ce que ma façon de l'aimer ou de l'éduquer? Ou je me dis toujours, au final, j'espère que à la fin de tout ce processus-là, ça sera le bien qui va l'emporter, qui va dire, ben, finalement, ma mère n'est pas si pire. Puis que, oui, j'ai fait des erreurs comme tous les parents, mais qu'au final aussi, il en aura retenu des... Il en aura retenu du bien aussi.
Ah, ce fameux doute, là, vraiment, je pense qu'on va s'entendre qu'on y échappe pas. C'est comme, il y a des réponses même plus, je trouve, émotives que d'autres. Moi, ça m'a quand même bouleversée. Geneviève Peterson, chroniqueur et blogueuse à Châtelaine. Allô?
Bonjour, Christelle.
Je dois dire aussi que tu es auteure et maman de trois enfants.
Oui, oui.
Dont le petit Ernest,
oui, qui a sept mois. Oui, seulement sept mois.
Toi, tu es à fond là-dedans. Et là, tu signes une série de billets sur, sur ton blog à Châtelaine concernant le doute chez les parents. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire là-dessus?
Bien, je me suis beaucoup questionnée parce qu'à ma première fille, j'étais très « by the book », comme on dit. Si c'était marqué dans le guide Mieux vivre qu'on reçoit tous pendant notre suivi de grossesse, d'introduire les carottes à 6 mois, c'était pas à 5 mois et 29 jours, ni à 6 mois et 3 jours. Donc, je suivais tout ça. Puis, le sommeil, j'avais lu la méthode Pentley, j'avais lu aussi la fameuse méthode. Je lisais plein de livres de méthodes, de toutes sortes d'affaires. Puis, tout ce que ça faisait, c'était me faire sentir inadéquate. Mm. Parce qu'il y avait beaucoup de ces méthodes-là qui allaient un peu contre mon instinct, contre mon gros bon sens à moi. À ma deuxième, j'ai très peu consulté ce genre d'affaires-là. Puis, je suis plus allée au feeling. Mais on dirait qu'au troisième, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une grande différence d'âge, peut-être, entre ce troisième enfant-là et ma dernière fille. Il y a une différence quand même de 5 ans, presque 6. On dirait que je suis revenue au point zéro, au point aveugle, puis je me surprends à redouter de moi comme si j'avais jamais eu d'enfant, puis à être inquiète comme une nouvelle mère, comme une débutante.
Donc, t'as même pas pu profiter de ton expérience.
Mais j'en profite sur certains apports, mais il y a d'autres sujets. Pour Sophie, ma deuxième fille, l'heure du coucher, ça a toujours été très compliqué. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je vais pas reproduire ça, puis là, comment faire pour éviter ça? Puis je me suis rendu compte que c'était pas ça la chose à faire, parce que moi, j'essayais d'en finir avec le doute. C'était ça au début, quand je voulais écrire cette série-là, je me disais, OK, quels sont les moyens que je pourrais prendre pour finir, tu sais, l'expédier ce doute-là, puis que je sois sûre de moi, mais en fait, c'est impossible, il faut l'apprivoiser. Fait que c'était ça un peu l'idée de cette série-là, de se dire, comment faire pour apprivoiser cette petite voix qu'on a toutes en tête, ou tous, parce qu'il y a des papas aussi qui l'ont, cette voix-là.
Absolument,
Et comment en finir avec cette voix-là et se dire, OK, elle existe, tout ça, mais se donner comme les outils pour avoir assez confiance pour y aller, puis se dire, regarde, oui, je le couche dans mon lit, oui, je l'allaite, ou non, je l'allaite pas, puis ça va être correct.
Oui, bien c'est ça, là, tu m'amènes sur, justement, parce que t'as quand même pris des sujets...
Oui, les sujets qui font chicaner les parents sur
vraiment,
Facebook.
Vraiment, le premier billet sur la fameuse guerre du sommeil.
Oui, mais c'est l'honneur de la guerre.
Ben voilà, parce que moi, pour avoir eu un bébé qui dormait 1 mois et demi et un autre qui dormait à 1 an et demi,
c'est ça.
Je peux dire que j'ai tout essayé les méthodes, et ne serait-ce que de s'entendre avec ton conjoint sur la théorie à apprendre. Écoute, puis les commentaires de tout un chacun, plus, comme tu dis, le fameux guide et tout.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile, honnêtement.
Mais je te dirais qu'au premier enfant que moi, j'ai eu, comme je viens de le dire, on était très méthode. Au deuxième, avec mon chum, on a essayé quand même de rendre ça un peu rigide. Mais là, au troisième, on s'est carrément dit, « Hey, sais-tu quoi? Moi, ça me tente plus de passer mes veillées à essayer de coucher un bébé, là. Mm. » Quand on est avec des amis puis qu'on soupe, que toi ou moi, on remonte dans la chambre environ 250 fois pour aller m'ostiner, il n'y en aura plus d'ostination. Il va se coucher quand il va s'endormir. Et mais là...
Commentaire des gens, évidemment. Pas de routine, cet enfant-là.
Mais j'ai remarqué que moins j'étais stressée, plus mon bébé dormait facilement.
Tu vois?
Donc, j'ai arrêté de m'en faire avec ça. Et à chaque jour, je me dis, mon Dieu, il n'y a pas de routine, cet enfant-là, c'est épouvantable.
Fait que tu te
le dis quand même. J'ai pas besoin des gens pour me juger.
Tu te le dis toi-même, c'est ça.
Je me le dis moi-même, mais j'essaie de me dire que c'est pas grave, puis que ça va donner ce que ça va donner, puis qu'on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière.
Est-ce que tu as l'impression, parce que moi, j'avais vraiment ce sentiment-là, mais c'est peut-être aussi juste parce qu'on a toujours peur d'être jugé, mais comme je le disais, il y a toujours eu des théories d'une génération à l'autre. On s'entend, les grands-mères disaient aux mères, nous autres, on faisait ça de même, ça fonctionnait très bien. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment atteint quand même un summum en termes de théorie qui circule, de guides à suivre, de commentaires. Et les réseaux sociaux n'aident pas vraiment là-dedans.
C'est la multiplication des sources d'information. Et puis ça, c'est pas juste dans le domaine de la parentalité. Je pense que c'est dans tous les domaines où on a à faire des choix. Il y a tellement de pluralité d'infos qui circulent, qui nous est offerte sur un plateau d'argent.
Ça
on
crée une
confusion. On
peut
plus se garrocher. Puis il y a un truc sur lequel je veux vraiment profondément insister. Les gens, écoutez... quand on est parent, quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau, on est très vulnérable.
Voilà.
C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai atteint des degrés de fatigue tellement grands que j'étais prête à essayer n'importe quoi. Et là, il faut faire attention parce que là, toutes les théories, les plus petits commentaires qui normalement nous passeraient 10 pieds par-dessus la tête, là, ça nous atteint. Là, on se remet en question et là, on est prête à essayer des affaires qui sont peut-être un petit peu contre nos valeurs.
Exact.
Puis là, on se dit, mais je l'essaierai, je l'ai fait. Puis je pense qu'il faut être vigilant parce que on est très, très vulnérable. C'est un moment de notre vie où je pense que c'est un des seuls moments, en fait, dans notre existence ultra régulée où on n'a pas de contrôle.
Vraiment,
puis
aucun contrôle.
Ça, c'est difficile pour nous, les femmes qui sont souvent très contrôlantes. Moi, je suis très contrôlante. Je suis une contrôle fric de tout. Puis c'est un grand défi pour moi d'apprendre ce lâcher-prise-là puis de me dire, hey, garde, t'accoucheras quand t'accoucheras. Il va sortir quand il va sortir.
Ça se peut que ce soit 42
semaines. C'est quoi? Ça se peut qu'il dorme pas. Oui. Même si tu essaies toutes les méthodes. Puis ça, c'est difficile, mais en même temps, je pense que quand on se laisse aller là-dedans, puis qu'on réussit à avoir du lâcher-prise, c'est bien pour toutes les autres sphères de notre vie après, c'est parce vrai. Qu'on apprend que le contrôle, ça peut juste pas marcher tout le temps.
Il faut toujours se rappeler aussi qu'il n'y a pas un enfant pareil. Hein. C'est pas parce que tu en as eu un. Et ça, moi, ça m'a un peu fasciné de voir que je pensais avoir une recette ou un modèle. Moi, mon modèle de bébé, c'est ça. Non, pas du tout. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un autre enfant complètement différent pour avoir ce choc-là. Peut-être que ça aussi alimente cette impression de recommencer dans le doute. En tout cas, mais chose certaine, ce que je trouve super intéressant avec ta série de billets, c'est que tu ne nies pas que tu continues de douter non plus. Tu n'es pas en train de dire « Moi, je me suis détachée de ça, la gang. C'est, je suis au-dessus de ça. »
Non, je suis tellement pas au-dessus de ça. Il faut arrêter de se voiler la face. Là. Ça va être dur, ça va être difficile. Mais juste le fait de dédramatiser la situation puis de se dire entre nous, « Regardez, ça va être compliqué, ça va être dur, on va avoir des épreuves. » Bien, on dirait que c'est moins pire.
Vraiment matière à réflexion. D'ailleurs, je vous invite à aller réagir sur le blog de Geneviève. C'est pas comme si on manquait de réaction. Par contre, surtout pour ces billets, c'est déjà en délire, mais c'est
excellent. Mais j'y lis tous, puis je réponds souvent.
Voilà, oui. Merci. Donc, je vous rappelle, vous pouvez lire Geneviève Peterson chaque mois dans Châtelaine et aussi en tout temps sur notre site web. Alors, on vient d'entendre un extrait du groupe Churches dont nous parle Mathieu Charlebois un peu plus tard à l'émission. Mais d'abord, je parle avec Martina Jogour, rédactrice en chef numérique, qui va nous parler nouvelles virales. Martina, chaque semaine, tu signes sur le site web de Châtelaine une chronique qui s'appelle « On mijote l'actu » où tu parles d'une nouvelle virale et tu nous proposes une recette pour, en quelque sorte, mieux gérer la nouvelle. Donc, c'est quoi notre nouvelle virale cette fois-ci?
Donc, Christelle, si je te dis émoticône de banane plus émoticône de volcan plus face qui rougit, tu penses à quoi?
Banane, volcan et...
Et face qui rougit.
Je pense pas que ça se raconte ici. C'est sûrement pas... Viens donc manger un gros banana split chez Dairy Queen.
En fait, t'es sur la bonne piste.
OK.
Je vois que tu es fluente en émoticône.
Je sais pas, le suis-je?
Mais je pense que oui, parce que, on est apparemment mieux d'apprendre les rudiments de ce langage-là parce qu'il en va de la santé de notre vie de couple.
Rien de moins?
Rien de moins. Alors, selon une nouvelle étude réalisée par le site de rencontre Match.com, les gens qui utilisent des émoticônes dans leurs messages textes auraient une vie sexuelle plus active que les autres.
Oh, OK.
Donc, le site a sondé 5600 célibataires américains de différentes tranches d'âge. Et le résultat, c'est que 54 % des gens sondés qui ont utilisé des émoticônes pour communiquer ont eu des relations sexuelles au cours de la dernière année.
OK.
Comparé à seulement 31 % qui n'ont pas envoyé d'émoticônes.
Non, mais quand même, c'est un bon écart. Là. On explique ça comment?
Mais en fait, on peut l'expliquer selon une anthropologue et biologiste de la Rogers University qui a mené cette étude, Helen Fisher. On peut expliquer ces chiffres par le fait que les messages textes constituent une nouvelle forme de communication. Donc, ouais. Et dans cette nouvelle forme de communication, l'émotion est souvent difficile à transmettre. Par exemple, on s'est tous déjà rendu compte que les inflexions de la voix ou les émotions sont mal transmises par message texte.
Non, ça c'est clair. Il n'y a rien de mieux que de faire une blague par texto, mais qu'elle soit mal reçue.
Ben exactement, d'où le fait que la plupart d'entre nous, pour souligner le fait que c'est une blague, ben on met un gros smiley face jaune à la fin,
on abuse
à la fin de nos textos, juste pour qu'on soit bien, bien, bien compris. Et donc, selon la docteure Helen Fisher, ben, c'est exactement ça le rôle des émoticônes. C'est en fait, en quelque sorte, de faire ce que la voix fait, c'est-à-dire introduire des subtilités dans notre message réintroduire l'émotion dans nos textes.
C'est intéressant, mais là, tu parlais de célibataire dans l'étude. Est-ce qu'on sait si les messages textes ont le même effet quand tu es en couple?
Oui, absolument. En fait, selon une autre étude qui est parue plus tôt cette année, faite par la Drexel University, celle-là, les messages textes ont aussi un rôle dans la vie de couple. Donc, selon cette étude-là, en fait, la plupart des gens qu'on connaît sextotent entre eux. 80 % des gens qui sont en... oui, 80 % des gens s'envoient des messages à caractère sexuel. Et parmi ceux-là, ben, le trois quarts sont en couple, dans une relation stable. Donc, c'est pas juste des célibataires qui sont sur un site de rencontre et qui s'envoient des petits messages coquins, mais c'est vraiment monsieur et madame, tout le monde, regardez autour de vous, ils s'envoient des messages textes.
Non, on a intérêt à abuser de l'émoticône avec chérie.
Oui, puis apparemment, plus on en utilise, meilleure notre vie sexuelle. Il y a vraiment une corrélation entre les deux.
Okay. On pourrait dire que les gens qui aiment utiliser des émoticônes aiment avoir du fun.
Ah, peut-être un lien. C'est peut-être ça, en fait.
C'est peut-être juste qu'ils profitent plus de la vie. On peut expliquer ça comme ça, ou peut-être qu'ils sont très créatifs. Écoute, pour trouver des séquences imagées parmi la liste d'émoticônes, il faut quand même avoir de l'inspiration.
Moi, j'aurais pas pensé à intégrer le fruit ou le légume dans un... dans un sexto.
Mais vous regarderez votre clavier d'un autre œil maintenant.
Oui. Absolument. Je veux même pas passer au volet animalier. J'ai comme des images. Excellent. Moi, je suis vraiment curieuse de voir quelle recette tu nous proposes pour mieux digérer cette nouvelle virale.
Alors, apparemment, certaines émoticônes sont plus populaires que d'autres pour exprimer ses intentions coquines.
D'accord.
Et l'aubergine arrive parmi les premières. Je ne veux pas vous donner d'explication. Je vais vous laisser utiliser votre imagination. Donc, pour pimenter votre vie de couple, je vous conseille d'envoyer cette séquence à votre douce moitié. Donc, émoticône d'aubergine plus émoticône de bouche. Ah. Donc, de deux choses l'une, soit votre amour comprendra qu'il s'apprête à, il ou elle s'apprête à passer une soirée torride, soit elle s'attendra à manger une tartinade aux aubergines.
Donc,
les deux.
Ou les deux. Exactement. Qui a dit qu'il fallait se contenter d'une option? Donc, tartinade aux aubergines.
Tartinade aux aubergines. Donc, si vous avez envie d'une tartinade aux aubergines, ben, ça tombe bien. On a une super recette sur le site de Châtelaine. Je mets le lien en dessous de cette balado que vous trouverez sur l'adresse châtelaine.com/balado.
Excellent. Donc, on va tous se ruer, aller voir c'est quoi la tartinade et se ruer sur notre clavier d'émoticônes, c'est sûr. Merci, Martina.
Merci.
Madame Saint-Laurent, Sophie, bonjour.
Je suis inquiète. Je ne sexte pas.
Tu te m'as douté, ça c'est.
Je doute.
On va te montrer quelques séquences, tu vas voir.
Merci.
C'est juste que ton chum va penser que c'est plus la même personne qui lui écrit. Mais qui est cette personne? Bon, passons à autre chose. Oui. Après le sexe, les enfants, c'est-à-dire que tu nous parles dans ta chronique à la mode de chez nous, de créateurs d'ici. Et là, vraiment, il se passe quelque chose dans la mode enfantine au Québec.
Oui, tu as pas tort, Christelle, en fait, mais il faut rappeler qu'on a une belle tradition au Québec quand même en mode enfantine depuis une trentaine d'années, parce que même à la fin des années 80, c'est l'époque où on a vu naître, par exemple, les souris mini ou les deux par deux.
C'est vrai.
Donc, c'est des marques qui se tiennent encore debout, qui, contre vents et marées, ont affronté la mondialisation, l'arrivée des chaînes de boutiques à bas prix ici au Canada. Et on a comme un certain attachement quand même à ces marques-là ici. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'avec le baby boom récent, c'est qu'on a une éclosion de petites marques niches, un peu champ gauche. Il y en a quelques-unes, puis en fait, on peut les catégoriser parce que la plupart veulent habiller les enfants comme des mini-adultes.
C'est vrai, mais souvent, c'est des looks même qu'on pourrait adopter pour nous. On est loin là, du petit coordonné avec la pomme ou le camion brodé, là, ou le chapeau, le pantalon, tout était coordonné.
Exact. Donc, c'est dans cet esprit-là que je suis partie à la recherche de quelques nouvelles marques, et mon gros coup de cœur, c'est pour les Belles Combines.
Oui.
Donc, c'est une entreprise québécoise fondée par deux sœurs. Une est enseignante en congé de maternité, parce que, tenez-vous bien, elle a quatre enfants. Mm-hmm. Et donc, c'est Dominique qui fait ça avec sa sœur Annie, qui est designer graphique. Donc, les deux filles en avaient un peu marre de voir sur le marché des produits avec des slogans en anglais ou à l'effigie des fameux super-héros américains ou des princesses de Disney. Ouais. Et on dit, en fait, on devrait penser à
autre chose. Et en fait, c'est l'idée de Dominique qui a proposé ça à sa sœur. Et sa sœur étant dans le design, ça a donné lieu à cette nouvelle collection-là. Ce sont des pulls, des t-shirts et des pulls en molleton. En fait, c'est très basique. C'est que des chandails. Il y a des cache-couches également, ou en fait, cache-couches qui vont être introduits très prochainement dans le marché. Mais en fait, c'est l'idée, c'est de promouvoir la culture.
Oui, c'est ça qui est charmant, parce que c'est la culture québécoise. Là. Voilà. Ils font appel à notre patrimoine.
Donc, on a une enseignante qui a à cœur de promouvoir la langue française, mais aussi des éléments de notre culture. Alors, les super-héros deviennent, chez nous, des super-héros comme étant les hommes forts. Mmh. Alors, il y a une petite collection avec, en fait, qui souligne la part du grand Antonio, de Louis Cyr, de Joe Monferrand, et à la culture québécoise. Donc, ce sont nos super-héros à nous. Il y a une autre collection, en fait, qui est sur la grammaire, donc qui essaie d'illustrer des règles qui rentrent pas toujours bien dans la tête des enfants, comme les ciments, je les raies, les accords des mots en ou. Et la vraie valeur ajoutée, c'est vraiment les designs qui sont super beaux. C'est vraiment très, très joli.
Et c'est eux qui ont des vêtements unisexes, hein?
Oui, c'est unisexes, c'est pour garçons et filles, puis c'est très, très épuré.
C'est rare de nos jours, trouver des vêtements pour enfants unisexes.
Voilà, et l'impression est toujours en noir ou en blanc sur les vêtements.
Une autre découverte intéressante, parce que c'est parti avec deux papas, je pense. Mais là, c'est plus des références à... c'est parti d'un conte.
Oui, alors, donc, une collection inspirée de la littérature, étrangement. Donc, c'est deux papas, dont un publiait sur Facebook les mots de sa fille Romy. Donc, ça a donné lieu à un livre qui s'appelle « Conversation avec Romy ». Il y a eu un tome 1 et un tome 2. Et il y a une entreprise québécoise qui est tombée sur ce livre-là, tombée en amour avec le concept, et a décidé de proposer aux deux gars, un illustrateur et un auteur, de faire une petite collection de vêtements. Donc, c'est très, très actuel. C'est un petit peu street style, je dirais un peu inspiré des hipsters, les deux papas étant un petit peu hipsters eux-mêmes. Donc, on s'attend à des chemises en flanelle à carreaux, des jeans skinny. Ça révolutionne pas le marché, mais c'est joli. Puis en plus, la nouvelle collection, on peut voir les personnages sur les t-shirts et quelques mots d'enfants aussi qui sont imprimés sur certains items de la collection.
C'est sympathique, ça.
Oui. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment c'est vendu dans les boutiques L'Aubainerie ou dans les Chocs Mode.
Donc, c'est accessible.
Donc, c'est très accessible en termes de prix, mais aussi la distribution est à travers le Québec. Donc, c'est très intéressant.
C'est chouette. En terminant, une dernière marque dont tu nous parles, je dois avouer que c'est une de mes marques préférées pour les bébés. C'est Electric Kids.
Oui, Electric Kids, c'est trop rigolo pour que j'en parle pas.
Vraiment.
Là, c'est vraiment, vraiment cute. C'est une petite compagnie. En fait, c'est un couple qui a décidé de fonder cette entreprise-là. Puis, leur gros succès, ça s'appelle le bébé bandana. Alors, c'est un petit bavoir sous forme de bandana, super absorbant. Et semble-t-il qu'ils ont imaginé ce concept-là parce que leur bébé Maurice bavait comme un chien Saint-Bernard.
J'adore.
Donc, là-dessus, c'est attaché après le bandana et ça a été vraiment un gros, gros succès. Et ça a même dépassé les frontières. Là. Ils vendent un peu à travers le monde, je dirais. Et,
plus juste des bandanas.
Non, maintenant. Donc la collection a grandi. Ils font des dormeuses en coton bio. Ils font des petits t-shirts sur lesquels on attache des cravates ou des nœuds papillons ou des boucles qu'on achète à l'unité à part. Et la chose la plus drôle et la plus cute, c'est les pyjamas passe-partout.
Ben oui.
Alors là, c'est vraiment une copie conforme. On a calqué, en fait, le costume de Passe-Montagne, Passe-Carreau et Passe-Partout. Et c'est en impression. Donc, ça a l'air presque d'une photo sur le
c'est
t-shirt.
Très réaliste, je les ai vus.
En fait, c'est des deux pièces ou des combinaisons, des petits pyjamas pour les enfants. Ouais. C'est vraiment joli. C'est à peu près 45 $. Puis encore là, on peut les acheter directement sur le site web.
C'est parfait pour les parents nostalgiques, ceux qui se retapent les DVD puis qui font semblant que c'est pour les enfants.
Exactement.
Ce n'est pas un aveu que je suis en train de vous faire. Non, non, non. Non, merci Sophie, c'est super intéressant. D'ailleurs, on pourrait peut-être remettre
Et moi, je retiens d'ailleurs les adresses Electric Kids. Je pense que je vais aller magasiner là-dessus.
Ah, oui, vraiment.
C'est exactement ce que j'allais dire. On pourrait mettre les adresses des sites dans la page de la balade.
Bien sûr.
À l'adresse qu'on vous a donnée tout à l'heure. C'est l'automne, il fait encore beau, hein, même si aujourd'hui il pleut précisément. C'est encore le moment de faire des belles escapades de gourmandes. Alors, on a décidé de vous en proposer une dans cette balado avec Nicole Labbé, qui est notre directrice cuisine déco. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Où est-ce que tu nous amènes, toi?
Je vous amène dans la Naudière, qui est une jolie région que j'aime beaucoup parce que je peux y accéder sans avoir à traverser un pont.
Ah, c'est un bon argument.
Et je trouve que c'est une région qui est moins fréquentée que d'autres régions. C'est vrai. Champêtre qu'on connaît bien.
OK. Qu'est-ce que tu nous proposes? Premier arrêt, on arrête tout.
Premier arrêt. On se rend à Saint-Jacques-de-Montcalm, mm-hmm. sur le rang Saint-Jacques, où il y a une boucherie du terroir qui s'appelle mm-hmm. Cochon sans façon. Alors, 100 comme le nombre.
OK, et non comme...
99 plus 1, c'est E-N-T, façon avec un S. Alors, c'est une boucherie familiale
okay.
De la famille Forget. Et on trouve là toutes sortes de coupes de porc, évidemment, mais aussi des mets préparés. Moi, j'achète toujours le jambon sans nitrite, qui est très bon.
C'est dur à trouver, ça aussi.
J'achète le porc effiloché en sauce que je mets au congélateur, qui est toujours bon pour dépanner. Alors, il y a vraiment toutes sortes de produits qui sont tous faits sur place. La glacière est évidemment indispensable.
Effectivement.
Je dois vous dire que moi, je n'ai jamais vu les bêtes quand je vais là, mais on peut sentir parfois leur présence. Mieux okay. vaut le savoir.
Vaut mieux savoir. Deuxième arrêt.
Deuxième arrêt, on se retrouve à Sainte-Marceline. À Sainte-Marceline, il y a Simon Turcotte.
Ah oui,
qui est confiturier.
Oui.
Donc, fait des confitures, mais aussi des compotes, des gelées et des moutardes fines. Mm-hmm. Évidemment, les produits de Simon Turcotte sont assez connus. Donc, on peut les trouver dans plusieurs épiceries fines, mais c'est agréable d'aller oui. à Sainte-Marceline, qui est un joli petit village.
Est-ce qu'on voit où il est fabriqué?
Tout tranquille. En fait, la fabrique de Simon est un petit peu en retrait du village.
Mm-hmm.
Et il y a un petit magasin, sa boutique est,
dans le
je
village.
Dirais, sur la rue principale, qui ne doit pas s'appeler comme ça, mais au centre de, non pas au centre-ville, mais au centre-village de Sainte-Marceline.
Excellent.
Où on trouve tous ses produits. Il fait beaucoup de confitures avec les petits fruits nordiques d'ici, ce qui est intéressant. Mm-hmm. Donc, camerise, argousier, cerise sauvage. Mais moi, j'aime bien aussi ses confitures pour accompagner le fromage.
Mm-hmm.
Entre autres, poire, eau de vie, fleurs de thym. Donc, des choses intéressantes pour
ça fait des très beaux
accompagner
cadeaux.
Le fromage avec un petit porto, peut-être, à la fin du repas. Donc, je fais provision des confitures, de petits pots de moutarde aussi, qui font de très
oui,
jolis
ça,
cadeaux
exactement.
D'hôtesse. Et il y a une boutique en ligne aussi, simonturcotte.com, où on peut quand même commander ces choses. Il y a entre autres des trio petit-déjeuner, trio fromage.
Ah,
intéressant.
Et on termine avec quoi?
On termine avec un incontournable pour moi, qui est le magasin de l'abbaye de Val-Notre-Dame. C'est près de Saint-Jean-de-Mata.
Okay.
Ce sont les moines trappistes qui étaient à Oka.
Ah, OK.
Qui ont déménagé là parce qu'ils trouvaient que Oka les mettait un peu trop dans l'agitation. C'était trop occupé.
Plus actif, oui.
Donc, ils se sont retirés là. Dans leur magasin, évidemment, on trouve leur fameux fromage Oka. Mais il y a beaucoup de produits de la région. Donc, s'il y a juste un arrêt à faire dans la Naudière, ça peut être intéressant d'arrêter là. Il y a d'autres fromages de la région. Il y a aussi une foule de confitures qui viennent de différentes abbayes, pour ceux qui aiment ça, abbayes au Canada ou en Europe. Et il y a les autres produits, évidemment, des moines trappistes, chocolat,
bien sûr.
Caramel, tartinade. Donc, vos enfants vont aimer ça. Moi, je trouve ça un peu trop sucré.
Mais ça peut être un argument pour traîner les enfants dans
le circuit
gourmand.
Les enfants vont apprécier, c'est ça. Moi, mon incontournable, c'est le jus de pomme frais,
ah oui.
qui est, à mon avis, le meilleur jus de pomme au monde.
Rien de moins.
Rien
vous
de moins.
Vous l'aurez entendu
rien
à Châtelaine.
D'ailleurs, si vous allez là un samedi ou un dimanche après-midi, n'y allez pas trop tard parce qu'il se peut qu'il n'y ait plus de jus
ah oui,
de pomme.
À ce point-là, quand
surtout
même.
Si je suis passée par là.
Excellent.
Je fais une petite parenthèse, si vous êtes là. Il faut aller voir l'abbaye,
okay.
qui est à peu près à 2 kilomètres du magasin, donc vraiment retirée dans les terres.
Uh-huh.
C'est une œuvre de l'architecte Pierre Thibault.
Oui, qui est bien connue.
Qui est très, très connue et c'est un bel exemple de son travail. C'est des lignes épurées, des lignes très simples, vraiment au cœur de la nature. Donc, c'est un peu la façon de faire de Pierre Thibault.
Mm-hmm.
Et
intégrer à l'environnement.
Intégrer à l'environnement. Il faut entrer dans la chapelle où le mur du fond, en fait, n'est pas un mur, mais est complètement fenestré, du plancher au plafond.
Ça doit être
et
magnifique.
C'est la forêt. On se sent vraiment dans la forêt.
Wow.
C'est très zen. Donc, si vous n'êtes pas trop allergique aux choses religieuses, allez-y. Par contre, si votre petite 2 ans vient de manger une demi-boîte de chocolat des Pères Trappistes, peut-être que vous
on va attendre la prochaine fois.
N'apprécierez pas trop votre expérience.
Excellent. Merci, Nicole. C'est le moment de notre segment « Lu, vu, entendu » où, en une minute presque top chrono, on vous propose un coup de cœur culturel. Aujourd'hui, notre suggestion provient de Lorraine Lambert, qui est réviseur à Châtelaine et qui nous parle d'un livre. Lorraine, tu as décidé de nous recommander le roman « Ce qu'il reste de moi » de Monique Proulx. Moi, je t'avoue d'emblée que je n'ai pas encore lu ce roman, mais ce que j'ai entendu, c'est que c'est en quelque sorte un hommage à Montréal.
Oui, Christelle, c'est aussi un hommage à Jeanne Mance. Le titre, « Ce qu'il reste de moi », c'est comme si Jeanne Mance se penchait sur son héritage, sur ce qu'elle a laissé. Jeanne Mance, c'était une folle de Dieu, mais c'était une laïque. Puis elle voulait venir apporter la bonne nouvelle aux Indiens. Elle voulait pas faire la guerre aux Indiens. Elle voulait comme établir une colonie avec Maisonneuve. Et toute sa vie, ça a été ça. Et aujourd'hui, Montréal, c'est une ville qui reçoit beaucoup d'immigrants, qui a plein de toutes sortes de monde. Et le livre, c'est ça. Ça se passe aujourd'hui. Puis c'est un roman choral. On croise vraiment toutes sortes de personnages.
Donc, c'est pas l'histoire de Jeanne Mance, mais elle est présente quand même tout au long du récit.
Oui.
OK. Et puis, tu dis, c'est un roman choral de toutes sortes de personnages. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils habitent toutes donc ici?
Oui, ils sont croyants ou pas. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce livre-là, mais de façon différente. Il y a des athées qui restent athées jusqu'à la fin. C'est pas un roman de conversion. Il y a, par exemple, Marcus Cohen, qui est un de mes personnages préférés. Marcus est un juif hassidique. Il a 20 ans. Il est beau comme un dieu. C'est la romancière. Et il décide de quitter sa communauté. Il sait pas trop où il s'en va. Puis j'ai un petit extrait.
Ah oui,
on voit la belle écriture de Monique.
Bonne idée.
Il se remet en marche. Il a abandonné dans les toilettes de la yeshiva le gartel et les phylactères. Il vient de couper ses paillasses et sa barbe. Il a troqué son chapeau contre un béret trouvé sur le trottoir il y a longtemps et précieusement conservé. Les signes distinctifs sont en grande partie abolis. Rien ne l'empêche plus de devenir un des leurs. Alors, on va le suivre partout dans la ville où il se fait voler par des itinérants, où il se retrouve à une adresse qu'on lui avait donnée. Alors, c'est un des personnages.
C'est intriguant, tu m'intrigues. Et sinon, juste en quelques secondes, je vois déjà, il y a l'écriture qui est un argument certainement pour lire ce roman. Sinon, quoi d'autre?
Ben, j'aime l'ironie qu'il y a toujours dans les romans de Monique Proulx. C'est comme si elle ne se prenait pas au sérieux. Il y a beaucoup d'humanité aussi.
Oui.
Pour moi, c'est important, en ces temps-ci de guerre et de haine, de trouver cette humanité, cet amour pour les personnages. Alors, je vous conseille de lire Ce qui reste de moi.
Absolument, merci. Donc, s'il pleut le week-end prochain, on peut pas aller dans la Naudière, on lit le roman et on inverse pour le week-end prochain. Merci beaucoup, Lorraine. On vous a fait entendre tout à l'heure un extrait musical. Ça provenait d'un album dont nous parle Mathieu Charlebois, qui, je le rappelle, est notre homme dans cette aventure de balado et notre réalisateur. Bonjour, Mathieu.
Je représente 100% de la testostérone de cette balado.
Ça me convient.
C'est beaucoup de pression, mais c'est ce qu'on peut.
Je connais pas le groupe.
Le groupe s'appelle Churches, donc comme église au pluriel en anglais. Mais il y a une twist. Le U, c'est un V. Donc, c'est Churches. Donc,
super.
C-H-V-R-C-H-E, S, et probablement tout en majuscule. Tu sais, des affaires de jeunes.
Ben, c'est
bon.
Ça.
L'album s'appelle Every Open Eye. Eye, comme tous les yeux ouverts. C'est un album, comme vous l'avez entendu, de synth-pop. Hein, donc, des sons un peu 80, mais c'est quand même un album qui reste de son temps. Ils ont utilisé des sons des années 80, mais ils refont pas les années 80 au complet.
Okay.
L'album, donc, Every Open Eye, c'est leur deuxième. Et ils élaborent sur la recette du premier. C'est un album que je resserrerais un petit peu. Il y a 14 chansons. Il y a peut-être 2 ou 3 qu'il aurait pu laisser
pour un troisième.
En même temps, ça dure juste 40 minutes. Donc, que je demande un album de 30 minutes, j'aurais été vraiment satisfait. Parce
peut-être
que c'est de la pop. C'est de la pop accrocheuse, c'est de la pop avec des grosses mélodies, c'est de la pop dansante. Et ça se peut qu'à un moment donné, après 30, 41 minutes de ça, on a envie de passer à d'autres choses. Mais pendant que ça passe, c'est vraiment super agréable. Vous savez quand est-ce qu'on ne doute pas avec ses enfants?
Non.
C'est quand on est en train de danser dans le salon avec ses enfants.
Ça a bien raison.
C'est toujours le fun. Et je pense que c'est le genre de disque avec lequel vous pouvez peut-être tenter la
Excellent.
Chose.
Excellent. Puis pour donner le goût aux gens, on en met tout de suite un autre extrait
pour
terminer.
Extrait.
Merci d'avoir été avec nous pour cette deuxième balado Châtelaine. Au plaisir de vous retrouver, en théorie, dans 2 semaines. C'est un rendez-vous.